Rayon Libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge. Hein.
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon Libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Et cette émission, elle est en direct. Et cette semaine, c'est la Trace ta route. Avec mon invité en face de moi, vous êtes sur Cause Commune. C'est le moment de Rayon Libre. Mais avant de tracer, je m'adresse à toi qui nous écoute. Merci pour ta fidélité, tes messages, tes suggestions. Merci pour tes likes sur les réseaux, sur les plateformes d'écoute. Ça nous aide évidemment à émerger. Merci aussi évidemment à toute l'équipe de Cause Commune. Et aussi un petit appel, même un grand, si vous ne voulez pas que la bande FM soit aux mains des groupes de milliardaires, les Bolloré, les Lagardère, les CMA, CGM, si vous voulez pouvoir continuer à écouter de la pluralité à la radio. Cause-commune a plus que jamais besoin de vos dons, c'est sur cause-commune.fm. Aussi un site web pour comprendre les enjeux, fser.causecommune.fm. Et avant de revenir à nos sujets du jour, Anthony Jean-Jean, qui était au micro de Rayon Libre en février 2021, eh ben il est devenu la semaine dernière champion du monde de BMX Freestyle Park. C'était l'épisode 98, si vous voulez l'écouter. Cette semaine, le 13 novembre, on se rappelle les 10 ans des attentats du 13 novembre. Souvenons-nous notamment de ces deux vélos, un noir, un orange, parqués en face du Bataclan, des vélos enfouis pendant longtemps sous les fleurs et les bougies. Un vélo noir, un vélo orange, des vélos appartenant à des victimes de ces attentats. Ils ont une pensée pour les victimes, leurs proches, toutes, tous, celles et ceux qui pédalaient ou pas. Le vélo, si c'est gratuit, c'est toi le produit. On l'entend souvent cette phrase, notamment dans le monde numérique. Tu ne payes rien, tu profites, tu participes. Et le coup, eh ben, c'est tes données, tes déplacements, tes surfs sur le web, ta trace numérique. Une autre façon de voir cela, est-ce qu'en enregistrant sur le numérique tes sorties, tes traces, tes itinéraires, tu ne pourrais pas, via une gigabase de données, permettre aux opérateurs publics d'identifier, sans réinventer la roue, les bons itinéraires de VTT, de gravel, de route, identifier les axes routiers, oubliés des automobilistes, paradis pour les cyclistes évidemment, ne serait-ce pas une façon de contribuer? Évidemment, il y a aussi des enjeux de respect de votre vie privée, de respect de la faune et de la flore, une question aussi de trace carbone. Tout ce que nous faisons et enregistrons passe par des centres de traitement de données, les data centers. Est-ce calculé dans l'empreinte carbone du cycliste les datas qu'on envoie dans le cloud? Aujourd'hui, on va s'éloigner du centre urbain, on va tracer, on va planifier, on va présenter une solution de cartographie, de mapping avec Corentin Richard, le fondateur de La Trace. On va explorer comment on peut glisser de la tech et de l'IA, de l'appli et de la planification d'itinéraire pour tenter d'accompagner cet objectif du tourisme à vélo en France, faire de la France la première destination touristique à vélo du monde. Comment la tech peut aider? Comment cartographier? Comment rendre accessible et désirable et facile l'itinérance à vélo ou même à pied? Bonjour Corentin, merci d'être avec nous au micro aujourd'hui.
Salut Jérôme, merci beaucoup de nous recevoir.
Eh ben c'est un plaisir Corentin. Et première question, est-ce que vous enregistrez dans le cloud toutes vos sorties quand vous partez pédaler ou marcher?
Alors pas toutes mes sorties, mais une bonne partie effectivement. Je suis un utilisateur d'autres plateformes bien connues et internationales.
Ouais, on en parlera, oui.
Et effectivement j'enregistre mes sorties pour la bonne et simple raison que ça me permet d'avoir un petit récapitulatif de là où je suis allé mettre mes roues et que j'aime beaucoup superposer sur des cartes toutes mes traces.
Est-ce que ça veut dire, parce qu'on va parler de la trace juste après, mais est-ce que ça veut dire que quand vous pédalez ou quand vous marchez, vous avez en tête toujours, ah bah tiens, cet endroit-là, il est canon, il faut que je le récupère quelque part dans les traces que je vais proposer?
Oh oui, je fais l'effort de documenter à peu près tout ce que je fais. Oui.
Et pourquoi vous n'enregistrez pas toutes vos sorties?
Parce que quand je vais à vélo le matin, je comprends vite fait que ça va pas être super intéressant.
Et encore, vous êtes parisien, il y a plein de choses à voir dans Paris.
Oui, bien sûr, mais sauf que sur le, moi je fais 10 km à vélo le matin, 10 km ouais. Retour.
C'est bon, tout le temps les mêmes.
C'est peu de surprises sur le trajet.
Ouais. Avant d'aller un peu plus avant, on se prend pour des start-upers, Corentin. Si vous deviez pitcher la trace en une minute pour que nos auditeurs et auditrices comprennent ce que vous faites, comment vous le feriez-vous?
Ah ouais, avec plaisir. Alors je commence par dire, je le dis toujours avec le sourire, qu'on a un tout petit problème d'empreinte carbone et que donc il va falloir s'y attaquer, que toutes les industries vont devoir faire leur transition et que le tourisme en fait partie et que le vélo c'est un magnifique vecteur de réponse à tout plein de problématiques qui se posent en ce moment. Moi j'ai commencé le voyage à vélo en 2018, j'ai fait un Varsovie-Paris pour aller voir des amis développeurs à l'époque et j'en suis tombé amoureux à ce moment-là. Aujourd'hui on a 20 millions de Français qui font du vélo pendant leurs vacances. Ouais. Et donc, c'est un formidable message d'espoir. Donc, c'est pour ça que j'ai fondé La Trace, pour accélérer la transition vers un tourisme décarboné, désirable, plus actif, plus humain et ancré dans les territoires. Aujourd'hui, La Trace, c'est une application et un site web qui permettent de trouver et de personnaliser son voyage à vélo partout en France. On a lancé l'application en juillet sur iOS et Android. On a déjà plus de 10 000 utilisateurs. Et donc, vous pouvez retrouver sur l'application, sur le site web, toutes les véloroutes de France, mais pas que. On a aussi créé des itinéraires inspirés du Tour de France. Et depuis, on a été contacté par tout plein d'entreprises et par des offices de tourisme pour intégrer nos cartographies sur leur site internet. Donc, c'est comme ça qu'on avance et on est très fiers de faire pédaler les Français et de continuer à innover et à générer de l'activité économique sur le territoire.
Donc, c'est une appli qui est au service des territoires, c'est ça que vous diriez ?
C'est une appli qui se construit avec les territoires. Donc, effectivement, on a la volonté de mettre en avant partout où on le peut, des parcours à vélo et randonnée qui sont accessibles en train autant que possible, ouais, pour essayer de pousser et de motiver les Français à partir à l'aventure plus proche de chez eux et en dépensant le moins de carbone possible.
Et donc c'est aussi une sorte de slow tourisme que vous prenez ?
Ouais, tout à fait. Après, on n'est pas utopiste, on s'inscrit dans la réalité. Il y a encore beaucoup de Français qui prennent leur voiture à raison pour se déplacer. Simplement, ce qu'on identifie, c'est que on a un besoin impérieux de faire mieux collectivement. Ouais. Et que donc, dès qu'on peut remplacer un voyage très lointain qui commence par de l'avion et qui continue avec un road trip par un voyage moins lointain qui commence par du train et qui continue par des mobilités actives, bah, c'est une excellente nouvelle pour tout le monde.
Ouais. Est-ce que votre point de départ, c'est ce que vous disiez? Alors, vous dites là dans votre pitch que vous avez fait un voyage Varsovie-Paris à vélo, c'était plutôt par Paris-Varsovie, non ?
C'était Varsovie-Paris, puisque j'y suis allé avec mon vélo dans la soute du Flixbus.
Ok.
Et ensuite, j'ai eu le plaisir de le remonter. Il avait un tout petit peu bougé pendant le trajet.
Ah bon ?
et puis à me mettre en selle, mais donc c'était bien Varsovie-Paris.
Et votre point de départ, c'est quoi ? C'est de vous dire comment je fais pour rentrer de Varsovie à Paris à vélo ? C'est la merde, entre guillemets ?
Alors, le point de départ, ça a été l'année précédente où, en fait, j'ai suivi un Tour de France des fermes d'avenir, ouais, qui était organisé par Maxime de Rostolan, qui est un chouette type que j'aime beaucoup et qui a monté tout plein de projets très positifs à mon sens. Et donc on allait voir des gens qui transitionnaient de l'agriculture intensive, classique, vers la permaculture. Et les étapes, les transitions se faisaient à vélo. J'avais jamais fait de vélo long cours de toute ma vie et donc j'ai été un petit peu surpris par la difficulté de faire 150 km au milieu des Pyrénées. Ouais. Il m'est arrivé quelques bricoles, mais j'ai pris goût énormément et donc l'année d'après, j'ai fait un pari que j'ai perdu, de dire que je pouvais rallier la Pologne à Paris, et comme je l'ai perdu,
à vélo.
J'y suis,
ouais,
allé. Ouais. Exactement.
Et donc vous avez perdu. Quand même là, ce que vous dites, vous n'aviez jamais fait vraiment de vélo au long cours entre guillemets. C'est quoi la place du vélo dans votre vie, dans la vie de l'ado ou de l'enfant que vous étiez, Corentin ?
Et bah, moi, j'ai un papa auvergnat et une maman bretonne. Donc, j'ai eu la chance de faire du vélo quand j'étais tout petit sur des magnifiques routes dans des magnifiques régions. Mais c'était du VTT, voilà, que je faisais avec mes cousins pendant l'été. On se prenait pour des coureurs du Tour de France et on me disait qu'on organisait un mini Tour de France. Je pense que les étapes devaient faire à peu près 8 km.
Ouais.
Mais on y prenait beaucoup de plaisir. Et puis j'ai abandonné ça puisque j'ai grandi à Paris. Donc moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de judo à haut niveau, ouais, quand j'étais ado. Et puis ça m'est revenu en sortant d'école d'ingénieur avec une envie de m'évader, de découvrir autrement.
Ouais.
Et effectivement, quand je suis parti en 2017 sur ce Tour de France des fermes d'avenir, je suis tombé directement amoureux.
Et du vélo ?
Ouais, ouais. Ouais, et du voyage à vélo plus, ouais, particulièrement.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce voyage à vélo plus particulièrement ?
Alors, il y a plein de choses qui me plaisent. La première, c'est la liberté et l'inconnu. On a toujours l'impression qu'on connaît super bien la France, qu'on va rien découvrir, qu'on va pas être étonné. Et on est vraiment étonné à chaque fois qu'on se met sur un vélo et qu'on fait quelques centaines de kilomètres. La deuxième chose, ça c'est propre à moi, mais j'aime beaucoup manger. Et donc, quand on se déplace à vélo, on brûle énormément de calories, donc on peut manger plus. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse tout particulièrement, d'autant qu'on a de la chance en France. Et puis, ça produit plein d'autres belles choses. Dans un monde où on est de plus en plus sédentaire, et ben, ça permet de prendre soin de soi, de son corps, et de sa tête aussi, puisque ça fait beaucoup de bien. Moi qui ai un cerveau qui est très, très intense, très divergent, qui a toujours 3000 idées et qui a du mal à me concentrer et à me focaliser sur une tâche en particulier, bah ça me permet vraiment de poser la pensée, de me voir réfléchir, de pouvoir faire ça sur du temps beaucoup plus long, et ça me fait beaucoup beaucoup de bien.
Tout simplement.
Voilà.
Dans l'intro, je parle de vélo, mais aussi de randonnée à pied. Est-ce que la trace, vous faites les deux ? C'est ce que vous dites un peu, hein, vous faites les deux, mais est-ce que vous avez expérimenté aussi la randonnée à pied ?
Ouais, complètement. Moi, j'ai été vraiment cyclotouriste avant d'être randonneur, mais je me suis mis aussi à la rando. J'aime beaucoup la rando en haute montagne. J'ai fait une partie de la haute route des Pyrénées que je recommande fortement, où il faut avoir un peu d'expérience, parce qu'il y a quelques passages un peu vertigineux et techniques, mais c'est fantastique parce qu'on redescend quasiment pas dans la vallée. Donc en fait, c'est à chaque fois 4-5 jours sans voir la civilisation et en autonomie, ce qui est une expérience assez magnifique. Ça permet aussi de se rapprocher encore plus de la nature, de la faune, de la flore, voilà. Et très concrètement, on a commencé par le vélo, mais on a la volonté aussi de pouvoir aider les gens à randonner. Donc on s'y est mis, en particulier avec le département de la Creuse qui a adopté notre module de cartographie. Et dans ce contexte-là, on promeut des randonnées à vélo, mais aussi des randonnées à pied.
Qu'est-ce que, quand on s'appelle La Trace, qu'est-ce qui est si différent quand quand on planifie un itinéraire à vélo ou un itinéraire à pied? Et d'ailleurs, comment est-ce que, et même à vélo, il peut y avoir plein d'itinéraires différents et puis des façons de pédaler qui sont différentes. En quoi vous arrivez à automatiser, entre guillemets, les différences d'intention et les différences de besoins et d'attentes?
Alors, c'est un très vaste sujet.
Ouais.
Mais effectivement, à La Trace, on a la volonté de s'adresser à une cible très large, donc ne pas s'adresser que à des méga sportifs, même s'ils seront très contents de pouvoir utiliser la technologie pour planifier leurs aventures, mais de dire qu'en fait, il y a tout plein de gens qui roulent pas 350 km par jour,
ouais,
qui roulent 50 km par jour, et c'est très bien comme ça, et que ces gens-là, comparativement, ils vont passer plus de temps à faire des pauses, à aller se restaurer, aller faire des visites, etc., etc. Donc la première chose, c'est qu'on essaye vraiment d'augmenter toute notre race de points d'intérêt et de choses à faire le long de l'itinéraire. Et puis ensuite, on travaille sur des algorithmes de routing, comme ça s'appelle, dans le milieu. Et donc là, le problème, il est tout bête, et la solution est beaucoup moins bête. C'est je rentre un point A, un point B, quelles sont toutes les manières de rallier le point A et le point B. Et donc là-dessus, pour des profils débutants, notre volonté, ça va être de faire passer au maximum par des voies en propre, éloignées des voitures et sur des itinéraires où on se sent en sécurité d'un point A au point B.
Mais même ça, la sensation de sécurité, c'est quelque chose qui est très personnel. Il y a la sécurité perçue et la sécurité réelle. Ça, c'est pareil. Vous placez j'en sais rien. Donc, en fait, enfin, pour bien comprendre déjà La Trace, c'est de la tech. Vous êtes une entreprise de tech.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Et donc, vous glissez des paramètres de sensation de sécurité perçue.
Ouais, alors c'est compliqué, c'est des problèmes de mathématiques, qui s'appellent, ouais, des problèmes de graphes, et donc qui permettent en gros de rallier un ensemble de points de la manière la plus efficace possible. Et quand on fait ça, quand on paramètre ces algorithmes, en fait, on fait de l'optimisation sur des contraintes.
Ouais.
Et donc la contrainte, ça va être par exemple de pas monter trop fort, de pas passer par une nationale, etc., etc. Et donc c'est en faisant des tests sur ces paramètres qu'on arrive à une solution qui fournit des parcours qui sont adaptés. Ouais.
Ouais. Pour bien comprendre, qu'est-ce que vous proposez de différent à Strava, à Komoot, à GeoVélo?
Et ben, ça va être ça principalement, c'est-à-dire la volonté de s'adresser à une cible beaucoup plus large et de venir agrémenter nos parcours de points d'intérêt. Donc il n'y a pas du tout ça sur Strava, il y avait historiquement ça assez peu sur Komoot, et on va beaucoup beaucoup plus loin dans la densité et la diversité des points d'intérêt. Aujourd'hui sur La Trace, vous avez des points d'intérêt nature, culture, transport, hébergement, restaurant, location de vélo, et des points d'intérêt pratiques que sont les tables de pique-nique, les points d'eau et les toilettes, désolé,
ouais,
pour la trivialité.
Non, mais, ouais, mais on en a tous besoin, là, notamment d'un point d'eau, et si on peut éviter d'aller chier dans les bois, c'est pas mal aussi.
Tout à fait, et ça, les toilettes, ça a été en particulier plébiscité par nos utilisatrices, ouais, pour des raisons évidentes, et donc oui, on est très contente de les avoir sur le chemin, et donc on essaye de rajouter la maximum de densité de points d'intérêt pour prendre vraiment en compte l'expérience de nos voyageurs, se mettre dans leur pompe ou sur leur selle, et essayer de les aider dans tout ce qu'ils font et dans toutes les petites problématiques qu'ils vont rencontrer au cours de leur voyage.
Ouais. Aujourd'hui, vous avez deux clients. Vous avez le client, ça c'est une vraie question aussi pour le coup. Qui sont vos clients? Est-ce que vos usagers, ceux qui téléchargent, vous dites que vous avez 10 000 personnes qui sont sur votre application, est-ce que c'est des clients? Est-ce que c'est payant?
Alors pour l'instant tout est gratuit, on est en train de...
Alors c'est le produit ?
Ouais, tout à fait. Non, pour l'instant les gens qui financent le projet sont les offices de tourisme et les entreprises qui utilisent notre module de cartographie, ouais, en licence. Donc ça, ils utilisent un logiciel qui est payant. Et pour nos utilisateurs, on a la volonté de construire des fonctionnalités qui seront premium et donc qui seront payantes, ce qui arrivera à l'été 2026, et il y a beaucoup de travail d'ici là.
Ok, on va se faire la pause musicale, il est 14h14, on va s'écouter écouter Laissons entrer le soleil de Julien Clerc. Ça va pas nous rajeunir, mais c'est bien, je trouvais ça bien de proposer ça pour notamment toutes ces victimes du 13 novembre qui puissent laisser entrer le soleil dans leur vie. On se retrouve dans 3 minutes. On est avec Corentin Richard, l'un des fondateurs de la Trace. Et justement, on parlera, est-ce que vous êtes fondateur, cofondateur, qui est dans cette équipe? Pour l'instant, on s'écoute Julien Clerc.
On se guette, traqué à bout de souffle marchant, pétrifié dans nos manteaux d'hiver, refoulé aux frontières du mensonge des nations qui crèvent, tué par des rêves chimériques, écrasé de certitude dans un monde glacé de solitude. Sa voix, si quelque part il y a l'espoir d'être un jour les enfants du hasard, je vois ma vie projeter son futur dans l'espace. Et le silence me répond en secret, Burger, j'ai l'impression de mourir. Chester, England. Manchester, England. Au bout de l'Atlantique, je suis un génie.
Toujours avec Corentin Richard, deuxième partie de Rayon Libre sur Cause Commune 93.fm. Corentin est cofondateur de La Trace, ou le peut-être, on lui souhaite, Géo Vélo des No Man's Land. Corentin, je vous posais la question juste avant de la pause musicale. Êtes-vous le cofondateur, le fondateur, l'équipe de La Trace, c'est quoi? Ah pardon, si je mets pas le micro, ça va pas aller. Voilà.
Et merci pour ça. Oui, effectivement, je vais accueillir deux cofondateurs incessamment sous peu. J'ai commencé l'aventure seul et comme ça grandit, j'ai besoin de m'épauler avec des gens qui vont être là sur le temps long, ouais, et qui vont s'investir comme moi. Et donc on sera trois.
Vous allez être trois. Aujourd'hui, votre solution, est-ce que justement elle est déployable partout en France, sur n'importe quel itinéraire, n'importe quelle boucle, n'importe quelle destination, la diagonale du vide, on peut la faire avec la trace?
Ouais, absolument. On a lancé une grande initiative du coup de création d'une intelligence géographique, donc très concrètement de lister des itinéraires et des points d'intérêt. On l'a fait pour l'instant partout en France, on le fera 2026 ou 2027 pour l'Europe. Pour l'instant, on est très content de documenter la France et c'est déjà bien assez de travail.
Oui, mais alors justement, est-ce que alors je sais qu'en France l'IGN notamment, enfin on a un mapping ultra précis. Est-ce que vous utilisez les données de l'IGN en France pour faire votre travail?
Ouais, bien sûr, on utilise tout plein de données open source. Il y a du coup d'une part l'IGN, il y a d'autre part tout ce qui est data.gouv qui est une initiative au niveau national pour produire des données d'intelligence sur le territoire qui sont ou pas touristiques, et donc on utilise la partie touristique de la base, et même chose pour les transports, etc., etc. Donc on utilise tout un tas de données
agrégées
nationales. Ouais.
Et ce data.gouv ou l'équivalent, il existe en Italie, en Espagne, en Suède ou pas?
Eh ben non, parce que sinon ce serait pas si facile. Non, il n'existe pas. En l'occurrence, c'est les questions que la norme qu'on a construite en France pour les données touristiques soit étendue à l'Europe, mais c'est pas encore le cas aujourd'hui.
Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre travail, demain, on imagine, il va falloir aller prendre le bâton de pèlerin et convaincre les pays européens qu'il faut faire comme data.gouv?
Absolument. Ou alors se débrouiller pour adopter le même modèle de données, donc transposer dans un autre modèle de données, ce serait vraiment, vraiment bien qu'ils le fassent eux-mêmes.
Bougez-vous les fesses. est-ce que ce que vous proposez, c'est une alternative au guide papier, un peu à la papa?
Ouais, tout à fait. Merci pour la question. Les deux fonctionnent et sont complémentaires. On est par exemple en train de travailler avec Ouest France pour les aider à digitaliser ces guides papier historiques, qui sont donc les guides aux éditions Ouest France. Ouais. Et là où ça se complète très bien, c'est que sur la partie inspiration avant, le bouquin, c'est un outil très particulier. C'est quelque chose avec lequel on a de l'affect.
C'est un objet.
C'est un objet. Ça sent bon. C'est agréable à feuilleter. Parfois plus ça se scroller qu'un téléphone. En revanche, ça a tout un tas de limitations qui sont toutes bêtes. Par exemple, sur un guide Ouest France aujourd'hui, j'ai un itinéraire de 500 km qui est découpé en 14 jours pour une cible très famille et débutant, et c'est très bien comme ça. En revanche, si moi je suis intermédiaire ou avancé et que j'ai envie d'en faire de faire pas 40 km par jour mais plutôt 80 ou 100, du coup le découpage est un peu obsolète, et donc la trace, ça permet notamment de faire ça, donc d'adapter le parcours à son contexte et à son niveau.
Donc ça veut dire que, allez, moi je suis un utilisateur de la trace, je veux faire cet itinéraire de 500 km proposé par Ouest France, je dis je suis le Victor Bozzoni, je veux le faire en une journée, la trace va être capable, sur mes paramètres, de me dire Victor, tu le fais en une journée et tu vas arriver au bout, n'oublie pas le petit détour parce que là il y a un château à voir.
Ouais, tout à fait, alors c'est exactement ça l'idée. En revanche, on n'a pas encore implémenté le niveau Victor Bozzoni, considérant que il y avait peu d'animaux qui pouvaient rouler aussi vite et aussi longtemps que lui. Et salut Victor, et toutes mes félicitations pour la dinguerie de cet été qui nous a tous fait passer de très beaux moments derrière ton petit point qu'on observait avec attention.
Vous êtes un fan, vous, justement, de mapping, de dot watching, de choses comme ça?
Ouais, absolument. Je suis un fan de vélo sous toutes ses formes. J'ai aussi participé à des courses qui ressemblent beaucoup à celle à laquelle a participé Victor. En l'occurrence, moi, j'ai pas fait la Transcontinental Race, j'ai fait la Transpyrénées Race. Ouais. Qui est une version un tout petit peu plus courte, mais qui pose d'autres problèmes, puisque la course était 1600 km et 33 000 mètres de dénivelé positif. Donc, il y a eu pas beaucoup de plats. J'ai été participant. Je me suis rendu compte que j'étais capable de le faire, et aussi que je ne serais jamais dans les 5 premiers, même si je bossais pendant des années. Et donc,
Vous êtes trop vieux. Je posais la question, est-ce que la trace, c'est une alternative au guide papier à la papa? Je me mets dedans, je viens de publier un livre sur des itinéraires à Paris et aux alentours. Il n'y a rien de numérique dans mon truc, donc je suis aussi un papa, un vieux ringard, en fait. C'est ça?
Bienvenue au club.
Vous m'évoquiez le travail avec la Creuse un peu plus tôt dans l'émission. J'ai quand même un point. Comment le touriste ou l'habitant local est au courant qu'il peut planifier sa randonnée à pied ou à vélo grâce à vous? Comment vous communiquez?
Ouais, là-dessus, c'est un modèle très intéressant de s'intégrer aux offices de tourisme et de ne pas les remplacer, plutôt de les aider, puisque de façon très concrète, quand les gens vont chercher de l'information sur ce qui se passe en Creuse, ils vont très vite arriver sur le site de l'office de tourisme. Ouais. Les sites des offices de tourisme, ils existent depuis des dizaines d'années, ils sont bien référencés, et donc c'est pour ça qu'on déploie notre module de cartographie, mais à l'intérieur de leur site web. Et donc, si vous tapez randonnée en itinéraire Creuse sur internet, vous allez vite tomber sur le site de l'office de tourisme et sur notre carte qui est publiée sur la page qui parle des randonnées.
Ok. Est-ce que, pareil, vous en parliez un peu juste avant, par exemple, là l'idée c'est de faire découvrir la France, est-ce qu'aujourd'hui sur la trace, vous vous adressez à moi en suédois, en norvégien, en allemand et en espagnol ?
Alors c'est une très bonne question, pour l'instant c'est pas le cas, mais en revanche c'est des fonctionnalités sur lesquelles on est en train de travailler et on identifie, comme tu l'as remarqué avec beaucoup de pertinence, que c'est important.
Ouais. Est-ce que vous êtes accompagné par les institutions politiques, publiques, qui portent le tourisme à vélo, les fédérations notamment, ou France Vélo Tourisme, tous ces gens-là, ils comprennent ce que vous faites ?
Ouais, on est bien sûr en lien étroit avec eux, ils s'intéressent beaucoup aux projets et aux potentialités que ça offre, et pour l'instant on n'a pas eu l'occasion de travailler ensemble, mais ce serait avec grand plaisir, et bien sûr, enfin...
Alors vous n'avez pas eu l'occasion parce qu'ils ne vous ont pas approché, ou parce qu'ils vous ont approché, vous n'êtes pas prêt ?
On a failli travailler ensemble. Il y a eu un appel d'offres il y a un an et demi pour reconstruire l'écosystème de France Vélo Tourisme. On est arrivé deuxième, donc il s'agira de faire mieux la prochaine fois.
Il s'agira d'arriver le premier. Voilà, vous n'avez pas pris le bon chemin.
On n'a pas pris la bonne trace, ça a été, été un peu trop rapide.
Vous écoutez Rayon Libre, on est avec Corentin Richard, cofondateur de La Trace. On va s'écouter la chronique d'Abel Guggenheim. Abel, il est comme Corentin, il trace une histoire, celle du vélo dans l'espace public. Aujourd'hui, il évoque le M12. Pourquoi le nomme-t-on ainsi ? Abel, je te pose la question et je te laisse nous y répondre.
Bonjour. Je commentais la semaine dernière l'erreur commise par un invité de Jérôme à propos du fameux panonceau M12 autorisant les cyclistes à passer un feu lorsqu'il est rouge, à condition de ne le faire que dans les directions indiquées par une flèche et de respecter la priorité des autres usagers de la voirie qui, bénéficiant d'un feu vert, n'ont pas de raison de laisser passer quelqu'un venant d'une voie dont le feu est rouge. Mais d'abord, pourquoi donc ce panonceau est-il maintenant couramment désigné par un numéro N12 qui est en fait son numéro dans la nomenclature officielle de l'instruction interministérielle sur la circulation routière, plutôt destinée aux discussions entre techniciens et aux commandes de matériel. Le M12 est le seul dans ce cas. On ne dit pas A3 pour le panneau annonçant une chaussée rétrécie, ni B1 pour un sens interdit, ni C5 pour une station de taxi. Pourquoi donc dit-on M12 ? Lorsque cette nouvelle réglementation a été instituée en France, et donc ce panonceau créé, il a, comme un certain nombre d'autres, rapidement acquis un don d'usage spontané de « tourne à droite cycliste », proche de la façon dont il est couramment désigné dans les langues des pays où cette réglementation existait avant. Le nom officiel, autorisation conditionnelle de franchissement, clair mais un peu compliqué, ne s'est pas imposé. C'est alors que quelques technocrates bien placés décident d'inventer un nouveau nom, avec le souci sans doute louable de rappeler aux cyclistes, en les plaçant en premier, les conditions dans lesquelles s'exerce l'avantage qui leur est accordé. Ils l'appellent « céder le passage cycliste au feu », en expliquant que le panonceau fait du feu rouge l'équivalent d'un « céder le passage ». Ces technocrates, sans doute excellents techniciens, ne sont pas des linguistes, ni des spécialistes en communication, et ne maîtrisent pas l'utilisation réelle de la langue française. Dans l'énoncé des panneaux d'obligation ou de prescription, on emploie l'impératif, et la catégorie à laquelle cette obligation s'adresse est généralement placée en premier. Automobiliste, ralentissez. Cycliste, pied à terre. Piéton, traversée obligatoire. Lorsque c'est un avantage, il apparaît après. Voie réservée aux autobus, piste cyclable, passage piéton. Si les militants et militantes, techniciens et techniciennes, et même quelques journalistes, obéissent à l'injonction, le nom ne s'imprime pas. Et c'est ainsi que le numéro du panneau dans la nomenclature prend, dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux, la place laissée libre par la complexité du nom officiel et l'incompréhension face au nom technocratique. De toute façon, l'expression « céder le passage cycliste au feu » a le plus souvent été entendue comme « céder le passage aux cyclistes », c'est-à-dire exactement l'inverse du message qu'on voulait faire passer. Si vous cherchez « céder le passage aux cyclistes » en l'entourant de guillemets sur un moteur de recherche, vous trouverez plusieurs occurrences fautives de cette expression, y compris sur des sites sur lesquels on ne s'y attendrait pas. On en indiquera 3 sur la page de l'émission. À lundi prochain.
Merci Abel. Il y aura des M12 sur les traces de la trace. Quentin Richard, il faut que vous nous répondiez par oui ou par non. Est-ce que demain, je peux imaginer la trace du Tour de France 2026, de la Vuelta, du Tour de France féminin, du Giro, faites à ma main, mon rythme avec mes POI qui m'intéressent?
On a 100%.
Eh ben super. Merci beaucoup auditeurs, auditrices. Ça y est, ce rayon libre est terminé. N'oubliez pas, hein, le vélo est une chance. Ce serait dommage de ne pas l'enfourcher. Merci pour votre présence, Quentin Richard. Restez sur 93.fm, cause commune. Il est 14h30. Merci de votre fidélité, pour vos messages, vos commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez, on trace ou allons tracer, je vous laisse décider.